France Inter.
Oh ben c'est promis. La bande originale, c'est sur Inter, c'est maintenant avec Leïla, comme vous l'avez dit, Lisa Delmoitier, Julie Conti, Bruno Pecky, Tanguy Pastureau, Paul Delarve, Daniel Morin,
bonjour.
Et notre invité, Thomas Gijol.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Maggie.
Indomptable, ouais. Le nouveau film réalisé, interprété, adapté aussi. C'est un roman que vous avez adapté, Thomas.
Un documentaire.
Pardon.
Un crime à Abidjan,
absolument.
Un truc juste. Ça fait plaisir. Indomptable. Ce qui est intéressant, c'est que l'une des premières scènes, si ce n'est la première scène, c'est le rapport d'un père avec son fils. Indomptable, justement, problème d'éducation. Comment éduquer son fils et quel rapport installé, petit tour de table, puisqu'il y a une punition qui est annoncée. Je crois que l'exemple qui est donné, c'est celui du rapport entre le père de Marvin Gaye et Marvin Gaye.
C'est ça. Ouais. Bah, qui l'a tué, quoi.
Ouais. Mais c'était une erreur.
Pour calmer son fils en faisant preuve d'autorité, il fait, tu sais ce que le père de Marvin Gaye a fait. Marvin
Gaye. La menace.
Ah ouais, j'adore. Bon, alors, souvenir d'une punition, Lisa, est-ce que tu as déjà été punie par tes parents?
J'étais rarement punie parce qu'enfant très discrète.
Non, bien élevé, on dit.
Ouais, mais je pense parfois, ils oubliaient que j'étais là. quand même, ma messe à moi, beaucoup trop jeune d'ailleurs, c'était regarder les Simpsons. Et du coup, la punition ultime, c'était me priver des Simpsons.
Ah, ok.
C'était compliqué, ouais. J'avais besoin de ma dose d'insultes.
Julie?
Aussi très peu de punitions, mais plutôt parce que j'avais plutôt des parents démissionnaires, je dirais. Mais une punition que je me souviens, c'est qu'avec mes cousins, on n'avait pas le droit de jouer aux jeux de société quand on était ensemble parce qu'on finissait toujours par se battre.
Ah oui.
On était interdits de jeux de société.
Oh. D'accord, ouais, c'est costaud. Ouais. si seulement ça avait été pour nous, pareil, Leïla.
Bah, pas mal de punitions,
bah ouais.
Mais en même temps, en réalité, assez méritées. Notamment une qui était bataille autour du jeu Mikado. Voilà, on s'est battu pour jouer à ce jeu, bon bref.
Et, mais il y a deux yeux crevés.
Et donc, pour mettre fin à la bataille, mon père a juste pris le jeu et puis il l'a cassé en deux, il a mis la poubelle. Plus de jeu, plus de problème. Voilà. Et nous, c'est un peu comme ça qu'on résout les
Tanguy,
problèmes.
Tanguy, parce que
moi, je fais partie de cette génération d'enfants dont les parents, en fait, quand on était punis par le prof, rajoutaient la punition x2 et écrivaient dans le carnet de correspondance, c'est bien mérité, donnez-lui plus. Quoi.
Bah oui.
Et voilà.
Et si tu finis au poste, je vais pas venir te chercher.
Ouais, ça allait pas jusque-là quand même. Mais effectivement, ouais, j'avais double punition.
Rendez-le. Tes parents étaient profs?
Non, mon grand-père,
bourreau,
que j'aimais beaucoup, était prof.
Non, parce que les miens étaient profs, et dès que j'étais convoqué ou une punition de prof, ils étaient comme les tiens, c'est-à-dire, vous avez totalement raison. Et
c'est l'époque où on donnait raison aux professeurs.
Et il y avait une sale ambiance à la maison pendant quelques temps, quand même, après. Daniel?
Moi, c'était sous forme de vanne, très bonne vanne de ma mère, j'arrêtais pas de l'emmerder avec, de toute façon, quand j'aurai 18 ans, je vais me barrer, nanana. Et le jour de mes 18 ans, pour mon anniversaire, elle m'a offert une valise.
C'est vrai?
Ouais.
On était dans une résidence.
Zéro punition.
Je me rappelle pas d'une vraie punition que j'ai subie. En revanche, il y avait un truc qui nous faisait mal tous les soirs avec mon frère, puisque on était plein de copains dans la résidence. Mais c'était très simple. C'était vraiment très sobre. Mais nous, on commençait par faire les devoirs pendant une heure et demie. On travaillait pendant que toutes les autres jouaient dehors, et quand on pouvait enfin sortir, là, tous les autres rentraient pour faire leurs devoirs. Et c'était ressorti comme une punition, mais ça n'en était pas une. Voilà, c'est vrai.
Moi, c'est les chaussures.
Ça se voit.
De ma mère.
Ça continue.
C'est-à-dire que dès l'instant où il y avait un truc qui n'allait pas, où j'avais fait quelque chose de pas bien, à distance, elle prenait ses chaussures et.
Je crois qu'elle t'a obligé à les porter.
Elle me balance. Ça, c'était dans nos soirées, Daniel. On avait dit qu'on en parlait.
Ah oui, mince, pardon.
Évidemment,
c'est un vrai signe d'intégration parce que.
Oui, c'est vrai.
C'est un vrai signe d'intégration.
Maman d'origine italienne-française, qui se comportait comme, comme papa le faisait de temps en temps.
Voilà.
Mais donc, taper avec la chaussure.
Une verre à moitié remplie.
Et évidemment, la provocation ultime était de rattraper la chaussure et d'essayer une deuxième fois. Ce qui fait que ça l'énervait encore plus. Thomas, vous, hors du film, est-ce que vous avez un souvenir d'avoir été puni enfant?
Pas trop.
Zéro.
Un petit peu, mais en fait, moi, je suis le quatrième garçon, en fait. Donc, mes frères, ils ont.
Ça change quoi?
Ça fait que mes frères ont pris pour moi.
Bah oui.
Moi, j'étais très, 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 très couvé en fait. Donc j'étais très doux. J'avais quand même des, comme on dit, des exemples et des contre-exemples devant moi. J'avais l'intello, j'avais celui qui fuguait tous les jours et j'avais le délinquant. Donc au milieu.
Ah oui, il y avait le spectre de tout ce qui était possible.
Tous mes frères ont tous les profils du banlieusard.
Et vous avez réuni les trois en un.
Moi, ouais, c'est vrai que c'est une petite synthèse de tout. J'ai des études plutôt moyennes, j'ai un peu racaillé dans la rue, mais c'était minable. Et j'ai fui deux, trois fois de la maison, mais quand j'avais faim, je rentrais. Donc, c'est un mix de plein de choses.
C'est l'enfant idéal,
Nagui,
quoi.
Ouais, un petit peu.
Je sais que Bruno Pecky a encore l'âge d'être puni par ses parents, mais vous l'avez zappé. Vous lui avez pas posé la question.
C'est ça, j'ai dû faire un truc à Nagui et il m'a zappé pendant le tour, quoi.
Ah, t'es là?
C'est lui, ouais. Non, mais moi, c'est un peu la même chose que toi.
Est-ce qu'on punit en Suisse?
Ben justement, c'est plus mais le truc de la chaussure, mais c'est les chaussures de ma mère brésilienne, c'est les tongs Havaianas.
Ouais, bien sûr. Ah, oui.
Et c'était ça, mais ça le problème, claque. C'est si une fois elle l'a pas, le problème des chaussures, c'est qu'il y en a deux, quoi.
Ouais. Bah
elle
oui.
prend la deuxième, elle essaie avec la deuxième, même si tu la rattrapes pas et tu lui donnes pas.
Et puis elle s'est bien
mise. Il y a toujours deux essais, et ouais. Il y a une grande
est-ce que tu. Est-ce que tu.
Waouh, tu la connais, c'est ouais. Ça peut sonner un peu comme une insulte.
Ouais,
je vais dire à ta mère.
Je suis pas aux mères, moi. Moi, j'ai des règles de vie, c'est pas les mères. Et j'en suis désolée.
Indomptable, c'est l'histoire d'un commissaire. C'est l'histoire d'une enquête, tout ça se passe au Sénégal, indomptable.
Au Cameroun.
Au Cameroun. Ouais. Ce sont les lions aussi.
C'est une référence un petit peu, oui, au nom de l'équipe nationale du Cameroun, les lions indomptables. Mais c'est aussi une référence à tous les personnages, surtout une référence à tous les personnages du film. Et c'est un adjectif qui qualifie assez bien la mentalité camerounaise, et la mienne aussi.
C'est-à-dire aussi d'une...
Il est super ce film.
D'un policier. Ah oui, c'est une réussite, ouais. Non, tu as raison,
c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire en premier, parce qu'on s'est dit ça juste avant l'émission lundi, il faut vraiment qu'on lui dise à quel point...
Puis on a marre des émissions un peu trop longues, donc...
Non, c'est vrai, on va arrêter maintenant. Il est vraiment génial.
C'est réussi, ça joue bien, il y a évidemment l'enquête policière, mais il y a surtout presque ce documentaire de dire à quel rythme, de quelle manière les choses se font. Avec quelle culture, quel tempo, et puis ce rapport d'éducation, père-fils aussi, la famille.
Le rapport à l'autorité au sein de la famille, au sein de la société, dans le rôle
au sein du commissariat aussi, avec ses propres collègues. Métier, ouais.
Vous avez un côté Clint Eastwood dans ce film.
Oh, c'est gentil.
Ouais, dans ce personnage de flic comme ça, alors pas forcément avec les mêmes orientations que ce
Clint Eastwood. J'allais dire, ça peut vouloir tout dire.
Qui n'y croit plus trop, on ne sait pas trop où il en est dans sa carrière, s'il est un peu au bout du rouleau.
Ah, il est. Il est au bord de la rupture, c'est sûr. Ouais. Dans sa vie privée comme sur le terrain. Ouais. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'est que le mec, il est sous tension sur les deux tableaux et justement, il se comporte comme un flic à la maison et des fois comme un papa avec les suspects.
Ouais. Ou comme une racaille aussi par moment dans sa manière de faire des interrogatoires. Ouais. Et il y a beaucoup dans les
violences. Une violence qui jaillit parfois,
bien sûr.
Lui. Quoi.
Et puis il y a... Ça...
Ouais, c'est le chip là que t'as tenté. Ouais. Parce que pour moi, t'as mangé des chips, j'arrive pas.
C'est le chip. Faites-le vrai.
Voilà. C'est instinctif. Ouais. C'est même pas. Là, tu m'as dit de le faire. J'arriverai. C'est un truc.
Ça
sort comme ça. Ouais.
Il y en a énormément dans le film.
Bah, ça fait partie de la culture. c'est comme ça. C'est au Cameroun. On dit pas. Bah, dis donc. Tu vois. C'est en chip. C'est une virgule. C'est une. Un point d'exclamation. C'est un ras-le-bol.
C'est un soupir. C'est ça.
Ouais. C'est un truc qui sort comme ça. Moi, je vis avec ça depuis tout petit. Mes parents le font pour. Je l'entends même plus en fait. Ça fait partie. Et puis même moi, je le fais.
Et il n'y a même pas le côté « ça ne se fait pas », c'est pas poli...
Ah, tu ne vas pas faire ça devant le chef d'État, non.
C'est vrai.
Non, tu ne fais pas ça devant un ministre. Bah, si lui, il le fait, tu peux, mais ça dépend le contexte, en fait. Si on discute d'un truc et qu'à la fin, je mets un chip, mais le chip peut être un peu à connotation un peu vulgaire, voire négative.
Ouais.
Donc, il faut
faire attention.
C'est un contexte. Okay. C'est un contexte. Ça fait partie du. Voilà, il y a le camembert en France, il y a le chip au Cameroun.
Ah ouais, c'est culturel.
C'est culturel, je sais pas, il y a quelque chose qui.
AOC. AOC.
Voilà.
Camembert, chip.
Indomptable, le film est réussi. Signé Thomas Gijol, il est avec nous jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici votre plus grand fan, c'est Old Olaf.
Je suis fan de Thomas Gijol. Je suis fan depuis les années folles. C'est Jamel Debbouze qui vous a tendu la main. Vous avez dû serrer trop fort, on dirait bien. Je suis fan de Thomas Casdey, par quel gros succès. Votre film avec vos deux copains Fabrice et Boué, ça parle de ségrégation et d'esclavage. On connaît ça, ces deux Arabes qui nous tiennent en otage. Et vous êtes avec nous pour le film Indomptable, un thriller au pays des lions indomptables. C'est l'équipe du Cameroun, mon équipe préférée. J'ai même failli y jouer, mais j'étais pas camerounais. Je suis fan de Thomas Angie Joll. Enfin Angie, c'est comme ça que tous vos amis vous collent. Ils connaissent le secret de votre nom aussi. C'est juste une pub pour négocier vos factures d'énergie. Chou, Angie, oh non. Dis-moi oui, Angie, pour mon énergie. Angie, j'ai dit oui. Oh, gaz de ville, les temps se gâtent, Angie sans souci. Il est au top de l'écologie, car depuis Fast Life et le Jamel Comedy, Thomas travaille pour Angie. Il s'excuse pendant que je chante, mais ouais. Je suis fan de Thomas, l'acteur réalisateur, surtout quand il tourne comme ça avec sa Cameroun. Ouais. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Merci, bienvenue à vous avec la bande originale.
Yeah. Il a tout osé. Il a tout osé.
Moi, j'ai dépassé mon quota d'excuses.
Il a...
voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu.
Thomas.
Film réalisé avec sa Cameroun. Cameroun. Mais même pas compris la vanne. Femme like you.
Femme like
you. Failli être buzzé pendant le.
Voilà. Je me chronique. Suis excusé auprès de.
C'est une bonne guerre, mais elle était longue la digression sur l'énergie. Voilà, il y avait vraiment un tunnel bah, sur l'énergie. Je me suis dit, attends, c'est une petite blague.
Non, quand
il...
tu trouves quelque chose d'aussi génial, c'est tu travailles
avec le vraiment. Il y a eu le remix de NG.
Mais j'ai le disque avec moi, je te l'offre.
Ah bah, je veux l'avoir.
T'es pas obligé, hein, Thomas.
Et ils vont se régaler à Lyon parce que.
Oldelaf,
il sera après-demain soir.
Tout à fait.
Très bien. Donc nous sommes à Yaoundé, le commissaire enquête sur le meurtre d'un officier de police, donc c'est extrêmement grave, on entend et on est au début de cette enquête avec ces balles perdues, mais ces recherches de témoignages aussi, et puis ce rapport à la police, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'être témoin, on n'a pas envie d'aider la police en fait.
Ouais. Bah, on n'a pas envie d'avoir de problème, plus ou moins, c'est ça, c'est un peu la fuite de problème. C'est pas le fait de pas aider la police, c'est que souvent dans les localités un peu populaires, quand on est peut-être témoin de on va pas dire d'un meurtre, mais de quelque chose d'une agression, on n'a pas trop envie de balancer, comme on dit vulgairement, pour sa sécurité et de se dire que voilà, on va pas venir m'embêter dans ma vie privée après. Donc il y a un peu la fête loi de l'omerta.
Et puis ce commissaire, il est quand même très rigoureux. Il est un peu perdu dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, mais il a des principes. Les principes d'abord de respect, de tradition, de ne parle pas comme ça devant telle personne, ne te comporte pas comme ça. Il est très fidèle à son éducation.
Ouais. Bah, il est un peu inspiré de la mienne, inspiré de celle que mes parents m'ont inculquée. Et c'est vrai que il y a quand même un peu d'autobiographie dans ce film, donc forcément, oui, c'est des choses que j'ai entendues tout le temps.
Faut pousser droit, quoi.
Ouais, faut marcher droit, marcher droit. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai un peu échappé quand même, il faut le dire, mais pour mes frères, moi, j'étais très témoin de ça, je voyais que c'est des choses qui rabâchaient beaucoup mon père, ouais.
Qu'est-ce qui
vous
a plu ?
C'est un peu vous, le petit dernier
ouais, c'est moi, clairement.
Qu'est-ce qu'il est trop joli ? Mais qu'est-ce qu'il est beau ?
C'est ce qu'on disait de moi quand j'étais petit.
C'est marrant, on le dit plus.
Dans les escaliers. Non, ça, dès que j'ai grandi, fin de guerre, je dis, wow, le petit Thomas, là, qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Avec son petit t-shirt, ouf.
Le petit chanteur.
Je peux le prendre tout de suite.
Ouais, formidable.
Vous aviez envie de raconter cette histoire pour... Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait? Le point de départ, c'était de le réaliser de le jouer, de caster aussi les très bons acteurs qui vous entourent, parce que ça joue extrêmement bien. De raconter cette histoire comme ça pourrait être n'importe quel polar qui se passerait n'importe où,
mais comme il y a un paysage culturel, comme il y a un paysage aussi dans la manière dont l'électricité fonctionne ou pas, dont les rues sont propres ou pas, dans la nourriture qui se cuisine ou pas dans la rue.
La façon dont est géré l'argent aussi.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'un policier qui se passe à New York, bah, on a toutes les refs des rues New York. Là, vous vouliez qu'il y ait toutes les refs des rues du Cameroun.
Peut-être pas toutes, mais beaucoup. Moi, je suis très effectivement quand même fan de polar, donc j'avais envie aussi d'être en immersion, mais à taille humaine. Je voulais pas faire un film fantasmé sur l'Afrique ou faire un petit côté carte postale.
Ni une parodie, vous l'avez déjà fait.
Ni une parodie, et puis pas non plus faire le flic qui fume des clopes dans les coins de Yaoundé, qui aurait été un peu cliché. Je me suis beaucoup attaché à cette histoire aussi de famille. Oui. Qui, voilà, le film, c'est un peu 50-50 polar et cette histoire de famille. Et pour revenir au début de ta question, c'est vrai que c'était viscéral pour moi de faire ce film. Ça, c'est à la sortie de mon dernier spectacle, j'avais vraiment envie de me raconter, d'être dans quelque chose d'un peu intime. J'avais passé, on va dire, un peu exposé le plafond de verre avec mes enfants dans ma relation avec eux sur le dernier spectacle et j'avais envie de continuer dans cette lignée.
À propos d'enfants, oui, pardon.
Ouais, plus connecté à moi et mon rapport au père, justement.
Ouais. Voilà. En inversant peut-être les rôles, en se projetant vous dans la peau du père que vous avez eu, rapport aussi femme-garçon totalement différent culturellement, c'est-à-dire qu'une fille ne doit pas se comporter de telle et telle manière dans la rue, il y a le jugement et puis d'un coup la marmite boue trop fort et elle pète un câble et elle finit par dire tout ce qu'elle pense à son père.
Ouais, après, je pense que c'est même pas tant un traitement lié à la fille, en fait. Je pense que c'est plus... moi, j'ai écrit plus
La place de la femme à Yaoundé, elle est équitable.
Elle est là, ouais. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je pense que c'est plus quelqu'un qui ne sait pas faire.
Ouais.
C'est plus face à une femme, on va dire de façon très triviale, avec un garçon, il y a la chicotte, il y a la force et tout. Avec une femme, il sait pas faire, en fait, ce personnage-là. Moi, je l'ai expérimenté dans ma famille où on est un peu mal à l'aise avec la femme, mais ça veut pas dire que la femme n'a pas le droit d'eux. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Il n'y a pas de souci, mais dans cette société...
Comment lui dire,
comment faire passer les messages, comment se comporter quand on veut justement peut-être réprimander ou remettre sur le droit chemin, c'est pas évident en fait.
Ouais, dans le rapport père-fille, c'est plus complexe, on a moins les codes.
Exactement.
C'est moins simple. En revanche, on voit bien la place de la mère et on voit à quel point elle décide.
Exactement.
Et finalement, c'est à la maison, l'autorité, c'est pas vraiment lui.
Ben oui, complètement. Complètement. Et moi, c'est une de mes grandes fiertés, en plus sur ce film où je l'ai pas du tout écrit avec l'espèce de dogme 2025, à écrire un personnage féminin fort et tout ça. Choses-là, je l'ai fait très naturellement et c'est vraiment à la fin du montage, je lui dis bah finalement, toutes les femmes s'en sortent plutôt bien dans ce film.
Ouais,
j'étais plutôt satisfait, heureux de ça. Je sais pas si c'est la vie, effectivement, moi je vis entouré de 5 femmes, donc peut-être inconsciemment, j'ai une sorte d'évolution, parce que je pars pas de ça, peut-être que je pars aussi avec beaucoup de...
Non mais on part tous d'une éducation très patriarcale,
oui, voilà,
c'est culturel.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un naturel, mais c'est un naturel aussi qui est peut-être revenu, parce que la première femme forte que j'ai connue, c'est quand même ma mère.
Bah oui. Et donc, quand on parle d'éducation patriarcale, moi je trouve qu'on en fait une image comme ça globale, mais en réalité, j'ai toujours eu l'impression d'avoir vu des femmes qui avait un sacré tempérament dans des maisons et dont qu'on fait passer pour des victimes.
Oui,
en fait.
Oui, non,
alors
mais il n'y a jamais eu de victimes.
Non, mais
victime.
Je parlais au niveau de dans la société.
Dans la représentation.
Bien sûr. Non, mais sincèrement, la femme, en tout cas, je veux parler de ce que je connais à une certaine mesure, mais la femme au Cameroun est très présente et très forte et a une vraie place, ça c'est sûr.
La transmission est aussi au cœur de ce film, parce qu'il fait son job de commissaire et il doit gérer sa vie privée, justement, son éducation. Y a des silences qui en disent long dans le film. J'ai adoré aussi ces scènes où tout est dans le regard et peut-être pas le jugement, mais en tout cas l'absence de communication.
Ouais, mais il y a beaucoup de pudeur dans nos foyers, si je puis dire. On comble pas, il y a pas beaucoup de paroles, quoi. Et puis même jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, moi je suis encore touché par ça. Bon, c'est vrai qu'avec mes filles, je les abreuve de mots et de marques d'affection, mais Mais quand même, moi, avec mes parents, voilà, quoi, c'est déjà se toucher, c'est... C'est beaucoup.
C'est pudique.
C'est beaucoup.
Mais quand vous dites que vous aimez les policiers et les enquêtes, vous n'aviez pas envisagé de faire un film avec des effets spéciaux, avec des poursuites de dingue, mais être le plus proche possible de la réalité.
Ensuite, il y a une idée, je veux dire, avec les embouteillages, ça dure 20 secondes.
C'est drôle pour l'ambulance. La scène de l'ambulance avec le. C'est bon, il n'y a plus d'embouteillage, vous pouvez l'emmener à l'hôpital maintenant.
Mais 20 minutes après, c'était fini. Heureusement qu'il y avait coupé. Je peux vous dire qu'elle n'a pas avancé longtemps. Mais non. Je voulais vraiment raconter l'histoire de cet homme, et pas être dans quelque chose de... Je voulais être brut, je voulais pas être stylé, je voulais faire un film vrai. Je voulais
et pourtant,
être...
il est stylé.
Ouais,
il a une classe naturelle, en fait.
Ah, ouais. Bah oui, et merci, mais c'est surtout parce que j'ai pas voulu faire, voilà, Africa is beautiful ou tous les pensifs sur l'Afrique.
Mais je parle, ça dégaine, par exemple. Mais vous lui avez trouvé une posture.
Il a la classe.
Ouais, mais il a quand même le dos légèrement courbé, comme s'il était un peu fatigué par la vie.
Ça, il y a aussi l'inspiration du documentaire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai grandi quand même avec cette génération aussi de parents qui étaient très tirés quatre épingles quand même dans la vie de tous les jours, quel que soit leur boulot d'ailleurs.
La politesse.
Voilà, c'était une présentation en société, et c'est vrai que voilà, je me suis amusé à revoir des images de ma jeunesse, et puis même jusqu'à aux clés de voiture, parce que j'ai toujours des clés dans ma main. Où c'était un peu la fierté à l'époque, dans les années 80, t'as une voiture, tu montres un peu ton trousseau de clés, quoi. Surtout si c'est une Ford Escort, là. C'est le Ligue des Champions.
Il fallait qu'il la place. Indomptable, le nouveau film de Thomas Gijol. Il est au cinéma aujourd'hui, ce film. Et Thomas est notre invité jusqu'à midi et demi. Voici Lisa Delmoiti.
Bravo.
Lisa, vous n'auriez pas fait un film policier comme ça, vous?
Non, mais pour les mêmes raisons que Leïla. Comment il est mort, Marvin Gaye? Son père l'a tué. Mais les darons, il faut une intervention, là. Il faut changer vos fun facts. Hein. Marvin Gaye faisait partie d'un boys band. Mm. C'est bien ça. Peu de gens le savent et c'est bien pour créer du lien avec ton fils. Ou alors Marvin Gaye a ajouté un E à son nom pour pas avoir l'air d'un gros gay. C'est vrai aussi, je vous jure.
C'est vrai.
Bon, ça reste les années 50. Hein. Si tu creuses assez longtemps, ça devient toujours problématique à un moment, tes artistes. La question n'est pas de savoir s'il a dérapé, c'est juste quand. Non, mais voilà. Enfin, ça te pose un personnage et c'est comme ça qu'on rencontre le héros de le film. Thomas, un commissaire gérant sa famille comme on gère une enquête, c'est-à-dire en faisant régner l'ordre, la discipline, mais sans manger de donuts. Les Américains m'auraient-ils menti? Impossible, c'est pas leur genre. On va finir par les trouver, ces armes de destruction massive en Irak. La seule raison pour laquelle j'avais envie de devenir commissaire, c'était pour fumer des clopes en imperméable beige et manger des donuts. J'adore les donuts, j'ai l'impression de manger une cuvette de WC.
J'adore.
Ah oui, parfait. Mais elle se trahit. Mais ce commissaire sans beignet, il sort pas nulle part. Alors oui, il est inspiré par un flic ivoirien que vous avez découvert dans un documentaire, mais son contexte familial est inspiré du vôtre, Thomas. Mais vous avez fictionnalisé ça, nous offrant ainsi une histoire beaucoup plus intéressante que votre vie. Je me permets. Hein. Non, mais je pense que c'est intéressant de parler de soi par la fiction, par le polar. Parce qu'un mec qui fait de la scène, qui fait un film, tu te dis ça va être je, ça va être très premier degré. Et moi, les récits de vie premier degré, j'en peux plus. Hein. Je ne pourrais jamais être psy. Après 20 minutes, je serai là. Vous aimez les gens, mais vous avez du mal à interagir socialement. Waouh, quelle originalité. Les parents, pas facile, mais ta gueule, vraiment. Laisse-moi deviner, ta femme est distante, ta mère est chiante, ton patron est con. Rejoins la file, mon pote. Et puis rends-moi ça intéressant, par pitié, arrête de te morfondre, juste transcende. Vois pas tes traumas comme une condamnation, mais comme de la matière. Faisant une peinture où tu trompes ta femme, une sculpture où tu bouffes ta mère, un film où t'es commissaire. Par pitié, ferme ta gueule. Oui, deux fois. J'ai vraiment envie qu'il ferme sa gueule. Mmh. Non, mais là où c'est proche de vous, Thomas, on l'a dit, c'est que le film se passe au Cameroun et questionne la figure paternelle. Et sur le sujet, moi j'y connais rien au Cameroun, mais je vous conseille l'excellent sketch montreux de l'humoriste Sarah Lélé sur les chocs culturels avec son père camerounais. Et si je lui fais de la pub, c'est parce qu'elle est très douée.
Ouais.
Aussi parce que je veux rester avec elle ce soir et j'essaie de me faire inviter. Donc voilà, ça va. Non, moi j'ai pas de blague sur le Cameroun, je connais pas, mais le portrait que vous en dressez sans préaliste, ni misérabiliste, ni fantasmé. Parce que parfois les enfants d'immigrés ont une vision idéalisée de leurs racines. Mmh. Tu sens qu'ils y ont jamais mis les pieds, quoi. Comme mes oncles italiens. Melissa, à Rome, les femmes sont tellement belles, quand elles allaitent, elles font de la bouffe, voilà.
Waouh.
C'est sûr, hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que les éboueurs passent deux fois par an, donc bon, peut-être arrêtez de regarder la Dolce Vita, quoi. Voilà, il n'y avait pas vraiment de meilleures anecdotes pour terminer. Je fais un peu comme les darons, je suis très nul en fun fact, quoi.
Merci. Lisa, Delmoitier.
portrait d'une famille aussi, histoire personnelle ramenée à cette enquête policière, et puis portrait aussi de la société camerounaise. On peut pas dire que au niveau des infrastructures, que ce soit à la police ou à l'hôpital, on soit au top.
Oui, mais c'est...
On torture les suspects et on oublie les malades dans des salles.
Bah, disons qu'en gros, moi, j'ai fait un état des lieux. J'ai pas voulu... Ça serait un peu culotté de ma part, en tant que Français, de venir au Cameroun et dire que ça va pas du tout et puis reprendre mon avion. J'ai été réaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que c'est une société, elle est au niveau où elle est actuellement. C'est pas pour rien, parce que quand même... On parle d'un pays qui est sorti de la colonisation. Tout ça, c'est pas des histoires très simples à expliquer.
Et qui résonnent toujours aujourd'hui.
Donc, ils se reconstruisent à leur rythme, à leur façon. C'est pas toujours très évident, mais la société a un certain niveau. Et puis voilà. Mais on va dire les mots qu'il y a dans ce film, dans une société comme celle du Cameroun, ils sont partout dans le monde, dans d'autres pays, commencer par le nôtre, parce que je sais que souvent, des fois, on parle de violence policière, il manquerait plus qu'en France, ça n'existe pas. Et on parle de corruption, il manquerait plus que ça n'existe pas non plus. Donc, tous ces mots, c'est vrai que le système médical n'est pas le même qu'en France, et que oui, c'est une société, économiquement plus pauvre, et il en ressort les choses de façon plus brutale, mais tous ces mots existent partout, au final.
Vous avez gardé le sens du rythme, aussi, de la comédie, puisque la comédie a un rythme imposé pour ses effets.
Au final, moi, j'ai pas non plus joué, le film en me disant que je fais un drame. J'ai été droit, j'ai été réaliste, mais c'est vrai que le rythme de la comédie aide.
Il y a des scènes très drôles.
Oui, mais ils ont beaucoup de second. Enfin, de façon globale, j'imagine que dans le Maghreb aussi c'est le cas. Ils ont beaucoup de second degré sur plein de choses, quoi. Ils sont conscients de leur société, et en plus aujourd'hui, comme avec les réseaux sociaux, ils voient tout. Ils savent rire d'eux-mêmes à certains moments. Donc, effectivement, la vie, même si là, c'est un registre plus sérieux, la vie, c'est pas que sérieux. Il y a des moments où on rigole. Il se passe des choses qui sont en décalage, qui prêtent à sourire. Donc, j'ai pas de souci avec ça.
Oui, mais c'est même pas forcément du second degré. C'est-à-dire que votre personnage est en train d'interroger un suspect et qu'il y a une coupure d'électricité. Il est complètement saoulé en disant, mais c'est même ça, on peut pas y arriver. Quoi. Et ça, c'est très drôle de voir tout d'un coup à quel point il est désespéré. On rit un peu de lui, mais.
Ouais.
C'est drôle quand il gratifie tout le monde, salue-moi. Le gimmick du salut qui est salue-moi. Hyper amusant le personnage. Mais
y compris quand il arrive à convaincre un suspect de se cramer finalement.
De révéler et peut-être d'avoir 20 ans
de prison derrière. Allez, serre-moi la main, n'en parlons plus.
On est quitte.
Indomptable, le film est une réussite librement adaptée d'un documentaire qui s'appelle Un crime à Abidjan de Mosco Lévy-Boucau.
Absolument.
Je n'ai pas cité son nom, pardon. Tout à l'heure, avec un casting 100% camerounais, vous teniez à faire le casting sur place.
Oui, c'était évident parce que c'était le challenge. Je me disais, j'allais pas venir. J'y ai pensé à venir avec des comédiens d'ici, mais je me suis dit une fois que j'étais en repérage, j'ai dit non, je vais tout faire sur place parce que ça n'a pas de sens.
Et de temps en temps, il y a des outils, de temps en temps, il n'y en a pas.
Oui, parce qu'il y a des accents différents. Il n'y a pas l'accent camerounais, il y a des accents comme ici, il y a des régions. Il y en a qui sont très pointus, que même moi, des fois, quand les mecs débitent vite, je n'entends pas.
Et vous-même, vous avez pris un accent?
Oui, moi, j'ai pris l'accent de ma région, Basso. Moi, je suis détenu Basso. Et donc, oui, j'ai pris l'accent.
Et vous l'avez travaillé ou vous savez le naturellement?
Je le connais naturellement, mais quand on est au milieu, on va dire, un peu de ses pairs, on perd un peu de confiance, quoi. Donc, j'étais très, très rigoureux. Et d'autant plus que j'ai appris un peu la langue pour le film, parce que j'ai 2-3 moments où je parle en langue, que je ne parle pas la langue de façon courante. Donc, j'ai appris un peu. Donc, j'ai baigné dedans quand même. C'est important.
Une histoire de famille, une histoire humaine avec des rapports de transmission, avec des rapports d'éducation, vous l'avez compris, avec du Marvin Gaye quand même. Vous étiez obligé de l'avoir en BO.
Ouais, parce que Marvin Gaye, c'est une figure de mon enfance, mon père l'écoutait beaucoup. Et puis j'ai longtemps cru avec la pochette d'un vinyle là, Midnight Love, que c'était mon père quand j'étais petit. J'ai passé beaucoup de temps à regarder le vinyle, à me dire ah là, papa était chanteur, c'est extraordinaire. Voilà.
Regard, ça fait partie également de la BO du film Indomptable qui sort aujourd'hui au cinéma. Thomas est notre invité jusqu'à 12h30. Voici Julie Conti d'abord.
Ouais. Ouais. Ouais,
Julie.
Bravo. Ouais.
Bonne nouvelle. Ariel, la petite sirène, est sauvée grâce à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui bat son plein actuellement à Nice.
C'est vrai.
À Nice, la ville de Christian Estrosi qui tenait très fort à recevoir cet événement. Mais le Balkany de la région PACA, le truc qu'il voulait vraiment sauver, c'est pas les océans, c'est son siège à la mairie dans un an. Hein. Niveau organisation, la conférence pour les océans est divisée en plusieurs espaces. Il y a la zone bleue, ça c'est réservé aux États et aux officiels, donc c'est là qu'on fait semblant d'agir. Il y a la zone verte, ouverte au public et aux ONG, et c'est là qu'on fait semblant d'y croire. Et les lobbyistes des énergies fossiles et de la pêche, ils sont où? Bah, comme d'hab, dans la zone grise, hein, pour vérifier que rien de contraignant n'est décidé. D'ailleurs, l'armateur CMA-CGM a filé 2 millions pour l'organisation du sommet, parce que le budget avait explosé. En mode, hey, si je donne 2 millions pour votre petite réunion, vous laissez nos 6 milliards de bénéfices tranquilles, deal? C'est beau quand même. Wow. Le géant français du transport maritime de conteneurs qui finance la conférence pour sauver les océans. Mmh. Bah, bien sûr, ouais, et SOS Village d'Enfants sera parrainé cette année par Jean-Marc Morandini. Et dans la presse, il y en a qui appellent ça la COP21 des océans. Mmh. Ah, je sais pas si c'est un bon signe. C'est pas bon signe pour Nemo, ça, non? Ouais, non, parce que la COP21, ça fait 10 ans et bilan, les températures globales en hausse. Les émissions de CO2 en hausse. La consommation de pétrole en hausse. Les catastrophes climatiques en
hausse.
Les déplacés climatiques en
hausse.
C'est bien, vous suivez. Ouais, le seul truc qui a diminué depuis la COP21, c'est la crédibilité de ces sommets internationaux et surtout notre envie d'écouter Ségolène Royal parler des pôles Nord. Oh, quelle horreur. Le problème de ces sommets, c'est les limites onusiennes. Comment expliquer? Un traité de l'ONU, c'est comme un tatouage à l'aîné sur la planète. Ça a l'air sérieux 2 semaines et après, il n'y a plus rien. C'est l'amourette de vacances. On se promet que c'est pour la vie, puis chacun rentre chez soi et c'est terminé. Macron a mis le projecteur sur l'annonce de la ratification prochaine du traité sur la haute mer qui présente comme une révolution. Mais en fait, il s'ajoute à des accords déjà en place. Donc, si un sujet est déjà traité par ailleurs, il ne s'appliquera pas. Je sais, c'est un peu technique. Mm-hmm. Du coup, pour simplifier, ce traité sur la haute mer, c'est un peu comme utiliser une capote trouée. Hein. On dirait que ça protège, mais ça laisse passer toutes les saloperies. Et en plus, dans ce traité, la pêche, elle est mentionnée qu'une seule fois. Alors sûrement, vous me demanderez, mais comment ça se fait? Allez-y, demandez-moi.
Comment ça se fait?
C'est parce que le seul truc plus profond que les zones marines qu'on continue de labourer au chalut, c'est les gorges qu'on fait au lobby de la pêche industrielle. Les gorges profondes. Voilà, ça prend du temps, je sais. Oui, Madenu était tout fier de dire que les annonces de la France permettront de faire doubler le niveau de protection forte dans nos zones économiques. Alors là, tu dis, oh, hey, beau boulot, Manu. Brigitte va pouvoir lui distribuer une gommette étoile. Mais non, en fait, il s'est approprié le travail mené depuis plus de 10 ans par le gouvernement polynésien et les 900 000 km² de protection stricte. Finalement, Brigitte, tu peux lui recoller un taquet dans la tronche pour lui remettre les idées en place à celui-là. La ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé dimanche l'interdiction du chalutage de fond dans 4% des eaux autour de l'Hexagone. Les ONG sont déçues. Oui, parce que 4%, c'est bien genre pour un yaourt un peu riche ou pour le quota des femmes PDG dans le CAC 40 ou alors pour un résultat d'élection de Valérie Pécresse. Mais pas pour la protection des fonds marins. Et écoutez mieux là-dedans, l'association Bloom a démontré que les aires marines identifiées se situaient presque exclusivement dans des zones où il n'y avait déjà pas de chalutage de fond. Bon, voilà, c'est officiel, ils nous prennent pour des gros débiles. Hein. Ils sont à deux doigts de nous annoncer que le chalutage en profonde serait interdit dans le canal Saint-Martin. Il y a trop de risques d'endommager les Vélib qui dorment paisiblement au fond. Enfin, le gouvernement, pour protéger l'environnement, il interdit des pratiques dans des endroits où ces pratiques ne se font pas. Préparez-vous, à la COP30 au Brésil, ils vont annoncer l'interdiction des canons à neige à Saint-Tropez. Et Agnès Pannier-Runacher, là, a appelé à ne pas stigmatiser les pêcheurs qui travaillent dur. Ouais, là aussi, c'est un peu du... Oh, ouais, on est d'accord. Non, parce qu'elle nous vend l'image de Erwan Le Guenec, pêcheur indépendant avec son petit bonnet Saint-James et sa marinière bien ajustée, là. Non, c'est pas un pêcheur que je décris, là. C'est mon dernier rêve érotique.
Oh.
Leïla, ça te le fait pas, toi, les marins, là? L'odeur d'iode et les mains calleuses. Non, mais ces chalutiers industriels, ça a rien de sexy. C'est des monstres des mers avec des sonars militaires et un congélateur qui pourrait stocker la moitié du catalogue Picard Romo. Ces machins-là, ça racle les fonds marins aussi bien que les subventions européennes. Les chaluts de fonds français ravagent en moyenne 670 000 km² de fonds marins chaque année. Soit l'équivalent de la France, la Suisse et la Belgique. Ravager la France, la Suisse et la Belgique en un an, on n'avait plus vu ça depuis la tectonique. Et comment faire pour arrêter ces méga chalutiers? Je sais pas, on pourrait demander un coup de main à Netanyahou, hein. Arrêter les bateaux, il sait faire apparemment. Ouais, elle passe moyen celle-là, hein. Oh là là. J'aurais peut-être dû attendre de re-signer mon contrat avant de la faire. Bon, bah, on s'en fout, on continue.
T'inquiète.
Non mais c'est dingue de penser que dans la plupart des aires marines protégées en eau française, le chalutage de fond est autorisé. Genre, naïvement, moi je pensais que quand on appelait ça des aires marines protégées, parce que c'était des aires marines qui étaient protégées. Mais non, t'as le droit d'aller racler le fond comme si c'était le dernier pot de yaourt dans le frigo. Hein. En fait, le seul truc protégé dans ces zones-là, c'est les intérêts des industriels de la pêche. Et pour être sûr que ce sommet sert vraiment à rien, les USA sont pas venus. Et un sommet international sur l'océan sans la première puissance maritime mondiale... Ouais, il y a même pas besoin de faire de vannes, hein, genre. Et quelques chiffres pour terminer, l'océan absorbe 90% de la chaleur, 30% du CO2, et cette semaine à Nice, il va surtout absorber 100% de notre hypocrisie.
Bravo.
Merci. Julie Conti.
Alors sur scène, ce sera à Genève pour les dernières. Attention, ce sera vendredi et samedi. Et en France, ce sera le 17 juin à la Petite Loge pour son fabuleux spectacle. Zut, elle était trouée.
Oh, c'est bien ça.
Indomptable, aujourd'hui au cinéma, le nouveau film de Thomas Gijol avec Danilo Mélandais, bienvenue Mvoué, Thérèse N'Golo, Junior Bessala, Dimitri Amougou, Christole Jomo, Terence Saba, Olivier Fomejo, Gaston Tsinapi, Jean-Vipol Nwind, Ariane Tomba et Issa Inkou. Je tenais à dire, et pardon si j'ai abîmé quelques noms.
Tu t'en es très bien sorti.
J'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas pas.
Avec beaucoup de peur et à la fin, j'ai senti. Bravo, bravo.
J'ai senti, mais je voulais surtout, par respect, en tout cas les citer tellement ça joue bien, encore une fois, que Thomas joue bien, c'est pas une surprise, mais qu'il y ait autant de monde et autant de justesse dans toutes ces scènes, encore une fois, qu'elles soient jouées, qu'elles soient d'interrogatoire de police ou au contraire de sincérité, de transmission au sein de la famille ou d'amitié. C'est juste, c'est dans un bon tempo et c'est touchant.
Et qui signe la musique ?
La musique, c'est mon ami très grand compositeur Danny Sainté et un jeune homme qui s'appelle Isco qui l'a secondé. Et vraiment, ils ont fait un travail magnifique.
Il fallait qu'il y ait du foot ?
Oui, c'est toujours obligé. Moi, je glisse toujours le foot, mais au service du sujet. Ouais. Voilà. Donc voilà, ma fille dans le film joue une petite joueuse de foot, ouais.
Gardienne,
ouais, ouais. En plus, tu vois, vraiment le truc, voilà, pas inattendu, mais bon, voilà, qui fait plaisir.
La Donnarumma.
La Donnarumma, locale, voilà, du bled.
On va parler du cinéma africain. D'ailleurs, est-ce que vous mettez votre film dans la catégorie d'un film africain ou vous dites, moi je suis français, laissez-moi tranquille, c'est un film français.
Un film ?
Je calcule pas trop ça, mais franchement, quand j'ai été faire ce film, moi j'étais en total Thomas Afrique-Cameroun. D'accord. Je ne suis pas de Maison Alfort ni de Paris parce que je voulais faire un film du continent, pas avec le regard occidental.
Ouais. Eva Sophie sera donc avec nous tout à l'heure. Elle est journaliste culture à Jeune Afrique et la musique dans la vie de Thomas Gijol, ça commence dans les années 90.
Hey.
Eddie Mitchell.
Ouais.
Et pourquoi ce titre en particulier,
Il m'émeut beaucoup ce morceau. Je pense que je voulais beaucoup d'enfants en fait. Donc je l'écoutais avant d'avoir des enfants et je l'écoutais beaucoup.
Vous aviez le baby blues avant d'avoir des enfants.
Ouais, je voulais des enfants. Je l'écoutais en voiture. Je rêvais d'avoir des enfants et aujourd'hui j'ai de la chance d'en avoir. Donc voilà. C'était un moment en rupture totale de hip-hop et j'écoutais beaucoup d'Eddie Mitchell et ce morceau il me parlait beaucoup.
Et vous êtes à cette époque-là aide-éducateur à l'école primaire Eugénie Coton à Bonneuil-sur-Marne.
Ouais, c'était l'époque. Je sortais beaucoup en plus à cette période, mais je sortais pour combler le vide en fait affectif. Ça, c'est drôle. Avec du recul, je le savais. Je dis bon, il faut bien vivre. T'es jeune, mais j'avais d'autres espoirs dans la vie.
Ouais, vous attendiez les enfants.
C'est pour ça que je prenais beaucoup
de prof ou pas vous.
Ouais. Mais je prenais un plaisir fou. Moi, j'étais éducateur. J'avais passé mon concours et tout. J'étais avec des enfants. C'était de la nourriture. Ils se rendent pas compte à quel point ils ont œuvré dans mon travail sur scène parce que. Ils sont sans filtre dans toutes les émotions, c'était super.
Encore aujourd'hui, vous avez ce rapport-là, dès que vous croisez des enfants, dès que vous partagez des entretiens après des projections, par exemple, ou après des spectacles.
Ouais.
Vous vampirisez, vous les écoutez comme des capteurs.
Non, j'aime bien échanger. J'ai toujours été, je suis attiré, c'est bizarre de dire ça, attiré par les enfants.
Eh bah tiens, ça tombe bien, parce qu'en 2005, vous écoutiez... J'étais obligé de faire la vanne. Après sa phrase, je suis obligé.
Là, c'est terrible.
C'est dur.
Écoutez, ça c'était. On va retenir l'artiste, on va séparer l'artiste des enfants.
Des enfants
et des Mais non, ouais, j'écoutais beaucoup
Michael Jackson.
Ouais, la deuxième partie de cet album Dangerous, c'est la partie un peu spirituelle. Parce que faute d'aller à l'église ou dans les lieux de culte autres, moi je crois en Dieu, mais je crois en Dieu de façon méga large. Et il y a des moments où, à travers la musique, je sais pas, je me...
C'est-à-dire, vous croyez en quelque chose qui peut-être est au-dessus de
qui
n'est pas forcément retranscrit par un livre.
Ouais, ouais, ouais. J'ai autant d'amour pour mes frères musulmans, frères juifs, mes frères, voilà.
On est d'accord.
J'ai un peu de... Voilà. Je suis humain, voilà.
Et quand on adore les enfants... Est-ce que c'est pas faire
un petit... Est-ce qu'on peut enlever Michael Jackson pour
Non, mais est-ce qu'on fait pas un petit deuil à un moment de se dire qu'on n'aura plus de bébés dans les bras, en tout cas les siens qui grandissent, que...
C'est pas évident, hein, parce que j'en parlais encore avec ma dernière fille qui a 7 ans, et je lui dis, mais je lui ai posé la question, je vais prendre son bain, j'ai dit, t'es encore un petit bébé, toi ? Elle m'a dit, non, je suis une petite fille.
Ouais.
Et ça, c'est un peu, voilà.
Crêpe mais la bonne,
la bonne nouvelle, c'est ça. Ouais. C'est que, bon, après, il faut qu'elle trouve un mec, mais l'aîné a 28 piges, et franchement, à tout moment, je peux être grand-père, et ça, j'ai plutôt hâte.
C'est cool.
Ah bah oui, j'ai pas envie d'être un grand-père quand je suis en fin de game, quoi. J'ai mal au dos et tout, quoi. J'aimerais bien pouvoir promener les enfants.
D'être grand-père maintenant.
Pardon ?
D'être grand-père, c'est encore plus fun, je crois.
Ouais, enfin, moi j'ai envie, les enfants, les bébés et tout. Enfin, ça met du sens. On fait un métier tellement prenant, tellement des fois déconnecté de la vraie vie que quand on est dans la vraie vie avec eux, ça fait du bien, quoi.
Mmh. En 2008, Thomas Gijol, vous écoutiez.
Ah oui.
On arrive à la drogue, donc, maintenant.
Non, ça, c'est
ça
Snoop.
Pour Stéphane Bern.
C'est Snoop, mon... C'est Snoop, mon artiste préféré. Non, là, c'est les années...
Le fou du roi.
Ouais, et puis c'est les années où je vais à Los Angeles aussi. Je voyage beaucoup.
Alors, vous étiez sur Inter ?
Pardon ?
À quel rythme vous étiez ici, à France Inter ?
Non, ouais, j'étais une fois par semaine, fou du roi.
2008
j'étais... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais j'avais du mal, putain, c'était le matin et tout, c'était dur.
C'est
11h.
Ouais, c'était le matin.
Ah, c'est maintenant.
C'est dur pour
moi.
Ok, ok. J'ai pas la même temporalité que vous. Mais non, c'était des belles années aussi. Parce que c'était des années, je voyageais beaucoup, je m'amusais beaucoup.
Enfin, Thomas, à partir du moment où vous êtes papa, il n'y a plus de grâce matin.
Il n'y a plus de matin.
Oui, mais c'est vrai.
Enfin, la vie, c'est le matin.
Je viens de prendre conscience.
Ouais. Ouais. Ah oui, il n'y a plus de grâce matin.
C'est donc pour ça que ma femme me fait des remarques.
Voilà.
C'est ce que j'avais pas du tout la même temporalité depuis tout ce temps.
C'est facile d'aimer les enfants si on dort jusqu'à
l'heure. C'est ça.
En 2009. I can show you the palms, the bones,
the times. I like to dedicate this song right here. Oh là là. Ça, c'est...
Oui, c'est fin de la phrase.
Ouais, non, c'est parce que je pense à ma femme, en fait. Ça correspond un peu à la rencontre aussi avec ma femme.
Et vous jouez votre one-man show, pardon, à Bloc.
Ouais. C'est pas tout à fait la même époque. Je vous dis n'importe quoi.
Ah bon ?
Ouais, je confonds les époques, mais peu importe.
On va appeler Carole pour savoir la bonne date.
C'était, ouais, mais cette chanson me fait penser à, parce qu'il parle de sa femme et ça me fait penser à ma femme.
D'accord.
Mais peu importe.
Et quel souvenir vous gardez de ce spectacle-là ? Parce qu'à chaque fois dans la vie d'un artiste qui monte sur scène, il y a des étapes, des couleurs. Là, avec ce film, vous vous rapprochez d'un lien de famille à vos racines. À Bloc, c'était plutôt quoi ?
Bah c'était un peu Maison Alfort et un peu mes parents. C'est à Bloc, il y avait même le côté Bloc où enfin il y avait le visuel du spectacle, il y avait ces briques qui sont dans mon quartier là, ces briques rouges.
Ouais.
Et ouais, c'est un peu j'ai toujours eu peur en tout cas à cette période de me déconnecter de là d'où je viens, donc de mes parents et de mes origines sociales. Ouais. Et j'étais content en fait d'avoir été au bout de ce spectacle et d'avoir toujours là enfin, la reconnaissance de mes parents et puis de mes amis d'enfance qui me disaient que c'était cool ce que je faisais.
Mmh. Eva Sophie nous a rejoint. Bonjour Eva, merci de venir
Bonjour.
À ce micro. Journaliste culture à Jeune Afrique. On peut mettre un autocollant, une étiquette sur le cinéma africain ? C'est un genre ?
Je ne sais pas si c'est un genre, parce qu'il faut rappeler quand même que le continent africain regroupe 54 pays. Il y a énormément de variétés. Par exemple,
on ne peut pas tous les mettre dans le
même panier.
Ou alors pour eux, le cinéma français est un genre. Si ça dépend d'où on regarde, quoi.
Voilà. Exactement. Voilà.
Ou le cinéma occidental est un genre. Ouais, c'est ça.
Oui. Non.
Est-ce que ça produit beaucoup dans tous les pays d'Afrique ?
Ça produit beaucoup, surtout au Nigeria. C'est la troisième industrie cinématographique au monde.
Et pourquoi là ? Parce qu'elle est aidée par le gouvernement ? Parce qu'il y a un public pour
Alors, il y a un public, en fait. Vous parliez de genre, ce cinéma-là s'apparente au soap opéra.
Ouais.
En fait, c'est des productions, c'est une machine, en fait, c'est une grosse machine. Il y a plus de 2000 films qui sont produits par an.
Wow.
Donc, dans des conditions très rapides, en studio, etc.
Et c'est pas Bollywood, c'est pas des super productions ou c'est comme des sitcoms comme vous le dites, comme vous le définissez,
c'est-à-dire des sitcoms long métrage.
Il faut des minutes efficaces par jour de tournage, c'est ça?
C'est ça.
Et si c'est le troisième, les deux premiers?
Hollywood et Bollywood. Ouais, tout simplement. D'où le Nollywood.
Oui, du trois.
Quelques grands noms justement de réalisateurs ou d'acteurs?
Oui, alors si on zoome sur les espaces francophones, plutôt Afrique de l'Ouest, Ousmane Sembène, qui aurait réalisé le premier film africain. Il s'agit de La Noire 2. On peut voir des extraits en ce moment à l'exposition Paris Noir. C'est un film qui date de 1966, très nouvelle vague, en noir et blanc, avec une voix off, qui raconte la trajectoire d'une nourrice à Dakar, qui s'occupait, qui travaillait pour des patrons français, et elle décide de les suivre à Antibes, dans le sud de la France. Et finalement, son rêve un peu s'écroule, parce que une fois arrivée là-bas, elle est victime de racisme, elle a assigné à domicile, et à faire des tâches totalement ingrates. Et c'est tiré d'un fait divers. Cette femme va sombrer dans la dépression. Après, je spoil pas la fin.
Ouais.
Ousmane Sembène, on a aussi le camp de Tiaroy, évidemment, dont on a un peu reparlé l'année dernière à l'occasion des 80 ans du massacre. Toujours en Afrique de l'Ouest.
Dans les grands noms, il y a Abderrahmane.
Oui.
Sissako. Oui. Mais est-ce qu'il y a une jeune génération qui arrive? Est-ce qu'il y a des premiers films réalisés?
Alors,
on peut parler.
Oui, puisqu'on est là pour parler de la diaspora, j'ai envie de souligner quand même le travail de la diaspora, parce que c'est vrai que la nouvelle génération a du mal à circuler, enfin on a du mal à connaître les noms, parce que c'est difficile de sortir des frontières du continent. J'ai envie de citer quand même Apolline Traoré, qui est une cinéaste burkinabé, qui a remporté un prix il y a 2 ans. Au FESPACO, qui se passe au Burkina Faso, et c'est l'équivalent en fait du Festival de Cannes. Mmh. Et sinon, donc parmi la diaspora, j'ai envie de citer évidemment Thomas Njol, Jean-Pascal Zadi, qui va sortir un film qui se passe en Côte d'Ivoire, dans l'espace, mais aussi en Côte d'Ivoire.
Le grand
déplacement.
Déplacement.
Ouais. Simon Motairou, qui signe Anishan Nimet, ça se passe à l'île Maurice. Atlantique de Mathieu Diop. Enfin voilà, ils sont nombreux à faire le pont en fait entre.
Alors, justement, quels sont les? Là, on peut parler de genre. Est-ce que ce sont plutôt des comédies? Est-ce que ce sont des films de science-fiction, des polars? Justement, tous les styles sont abordés. Ou il y a une tendance?
On quitte quand même pas mal le naturalisme pour le cinéma de genre. Donc le polar, Atlantique. Il y avait un côté film de zombies aussi pour traiter de la traversée. On a le film de Simon Montairou. C'est un film de survie à l'américaine. Donc il y a vraiment, les cinéastes s'emparent du cinéma de genre.
Et il y a des films politiques, il y a des films engagés, des protest-films?
Oui, bien sûr. Évidemment, le sujet dont s'emparent quand même les cinéastes, c'est le terrorisme, la question terroriste. On l'a vu avec Abderrahmane Sissako et Timbuktu qui parlaient d'un pays miné par le djihadisme. Je citais Apolline Traoré, c'est la même question à travers les femmes. Après, Thomas aussi raconte la réalité d'un pays. On l'a vu tout à l'heure, les disparités économiques, la traversée de l'Atlantique, de la Méditerranée, etc. Donc oui, on peut parler quand même globalement d'un cinéma engagé.
Est-ce que là, en ce moment, à part le film de Thomas, pardon, vous avez un film à nous recommander?
Alors, pas en ce moment, mais en tout cas, je recommande, c'est un film coup de cœur des 5 dernières années, c'est La Nuit des Rois, d'un réalisateur franco-ivoirien qui s'appelle Philippe Lacote, qui raconte une plongée vraiment brutale dans la plus grosse maison d'arrêt. Voilà, exactement.
C'est terrible ce film.
Ouais. C'est magnifique. Donc,
avec Denis Lavant.
Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très théâtral. Il joue aux côtés de Steve Chen Chu.
Ouais.
Et c'est vraiment un film à la croisée du politique et du poétique. C'est magnifique.
Ouais.
Parfait. Quelque chose à rajouter, Thomas?
Non, sauf que je suis très content et très heureux de effectivement de l'émergence de plein de jeunes cinéastes africains, parce que on pourrait citer Alain Gomis avec qui j'ai un peu travaillé là dernièrement sur son dernier film qui va pas tarder à arriver, et puis plein d'autres, et je trouve que c'est bien parce que ça nous complète nous dans le sens c'est les bienfaits de de nos doubles cultures, dans le sens où oui, on est français, mais on a des origines, et c'est bien de retourner, de créer ces ponts culturels.
Et ça va servir de modèle aussi à une génération qui ne se reconnaît pas toujours dans des films et dans des productions.
Récits. Ouais, exactement, exactement.
Merci Eva-Sophie d'être venue à ce micro. On continue de parler évidemment de Indomptable, de cette BO également, de ce film. Alors on est vraiment dans des ambiances suspense.
Ça
tourne, elle joue cette musique.
Ouais, c'est cool. Mais
c'est un personnage aussi dans le film.
Oui, on a construit la musique vraiment en parallèle au montage. C'est très important. Et puis non, c'est comment dire, je voulais pas trop faire le truc comme cliché polar, mais on a besoin quand même de cette adrénaline sur certains moments. Il fallait quand même des rêves par moment et on les a utilisés à bon escient.
Ça sort aujourd'hui Indomptable. Tout de suite, voici Bruno Pecky.
Ah, Bruno. Les amis, ce week-end, j'ai eu de la visite. Alors je sais, au vu de mon influence en tant que jeune humoriste brésilien, vous pouvez penser que j'ai reçu Lula à la maison pour prendre un café. Eh ben non, parce que Lula boit pas de café, c'est pas bon pour son cœur, donc on a pris une caipi. Non, ce week-end j'ai eu une visite encore plus importante, ma famille est venue de Suisse. Ma sœur, mon beau-frère, mon neveu et mes parents sont venus à Paris pour me rendre visite.
Il y a la place.
Enfin, ils ont loué un appart, je pourrais pas les accueillir chez moi, j'ai pas la place pour tous les héberger. D'ailleurs j'ai à peine la place pour héberger moi, donc j'ai limite gratté pour qu'ils me reçoivent eux dans leur appart, histoire de pouvoir déplier les jambes de temps en temps, mais bref. On était toute la famille ensemble, ce qui est un peu plus rare là depuis que ma grande sœur et son mec ont eu un bébé. Je suis donc tonton avec une tête de neveu. Faut savoir que moi je suis très proche de ma sœur, à tel point que si elle fait ce qu'elle aime dans sa vie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Non, très rapidement, parce qu'en fait quand j'étais petit je zozotais, du coup je suis allé voir une orthophoniste. Ma sœur m'accompagne à chacune de mes consultations, ça réveille une passion en elle. Aujourd'hui ma sœur, elle zozote. Non, le week-end était génial, mais voyager avec un bébé c'est un délire, j'avais jamais fait. Ça demande un truc extraordinaire qui s'appelle de l'organisation. C'est, tu dois toujours faire gaffe au bébé, autant d'attention pour une si petite chose, c'est fou quand on dirait les hommes avec leur sexe. J'adore mon neveu, il a bientôt 2 ans et demi, il adore les trains, parce qu'il a pas de personnalité, et qu'il habite dans un pays où les trains ne sont pas gérés par la SNCF. À Noël par exemple, je lui ai offert ainsi qu'à toute la famille un tour dans le petit train de Montmartre. Alors ma famille pose un week-end, fait plus de 500 km de voyage, loue un appart, on monte dans le petit train. 2 minutes après le départ, mon neveu s'endort. Mais ça va ou quoi? Je veux dire, 6 mois d'organisation et 80 balles de ma poche, je te fous du Red Bull dans le biberon et t'ouvres les yeux, mon coco, hein. Heureusement, ses parents étaient là et m'ont pas laissé faire ça, donc il a fait un gros dodo. Voilà. Bah, vous pensez que je vous en parle pourquoi? C'est pas une chronique que je fais aujourd'hui, hein. Je rembourse sa sieste, voilà. Bon, on a fait plein d'autres trucs, hein. On est allé à la Tour Eiffel, on a fait une expo pour les petits, enfin une expo que je comprends. Une balade en bateau sur la Seine, on a joué dans des parcs, et à la fin du séjour, je lui ai demandé ce qu'il a préféré, et il m'a répondu, le métro.
Yes.
Dernière fois que je fais guide touristique, moi, je veux dire, je me doutais bien qu'il allait pas répondre l'architecture gothique de l'île de la Cité. Je veux dire, la moitié de son ADN vient de ma famille, donc je vous laisse imaginer ce type d'intelligence à 2 ans et demi, quoi. Mais quand même, le mec répond le métro. Il aurait au moins pu répondre un truc qui n'est pas sous terre. Je veux dire, prochain Noël, c'est pas à Disney que je l'emmène, c'est dans les catacombes, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il a autant aimé avec le métro, hein. L'odeur d'urine, peut-être. Voilà, ça lui rappelle la moitié de son existence jusqu'à maintenant. En tout cas, si vous vous demandez d'où vient l'odeur de pisse dans le métro parisien, c'est de notre faute, hein. Et pour le coup, c'est pas à cause de mon neveu, vu que c'est mon père qui a pissé dans le métro. Il se fait vieux le pépé, hein. Je veux dire, bientôt, faudra prévoir 2 tailles de couches différentes, quoi. Alors, tout ça m'a fait me rendre compte d'un truc. Avoir un bébé, c'est trop fatigant. Mais en être un, c'est chill. Donc maintenant, j'ai un nouveau projet. Je veux être un bébé. Or, je sais, être à 4 pattes, avoir constamment un truc dans la bouche, ça fait rêver, mais je parle pas de ça.
Non,
mais il y a pas de bonne ou mauvaise situation, mais bébé, c'est quand même le top, quoi. On fait tout à ta place. On organise ta journée. On te prépare à manger. On t'habille. On te déplace. C'est ce qu'il y a de plus proche d'une vie de milliardaire, quoi. C'est pour ça que ton cerveau efface de ta mémoire les 3 premières années pour pas que tu t'habitues à ce mode de vie. Parce que j'ai vu l'état de mes comptes, hein. J'ai plus de chances de redevenir un bébé que de devenir milliardaire. En plus, je dis mes comptes, comme j'en avais plusieurs, quoi. Je veux dire, il y a mon compte bancaire et mon compte Snapchat, quoi. Les comptes en banque, c'est proportionnel à ton appart. Un studio, un compte en banque. Non, mais comment c'est ouf d'être un bébé, quoi. On t'emmène au parc à jeux et on s'émerveille devant toi parce que t'as réussi à descendre un toboggan tout seul. Mais moi aussi, j'arrive à le faire. Et moi, je le fais sans les mains et je tombe pas à la fin, quoi. Alors, je sais, on s'émerveille autant parce qu'il a fait quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais fait auparavant, quoi. Auparavant. Mais moi, quand j'ai fait ma première déclaration d'impôt, il y avait personne pour me féliciter, me filmer, m'envoyer dans le groupe de la famille, quoi. Par contre, il y avait un type du fisc pour m'appeler et m'engueuler, hein, soi-disant écrire pas assez dans Revenu Net, c'est illégal. Bon, je me rends compte que je suis peut-être un peu jaloux de mon neveu, hein, mais c'est parce que avant sa naissance, le dernier de la famille devant qui tout le monde s'extasiait pour rien, c'était moi.
Et voilà.
Vous savez pourquoi je suis devenu humoriste? Parce que ma famille a toujours rigolé à mes blagues et s'enthousiasmait en écoutant mes histoires. Mais quand je vois comment ils réagissent devant mon neveu juste parce qu'il a sauté d'un trottoir, mais je me dis qu'en fait, c'est sûrement pas si drôle que ça, quoi. Alors oui, je sais, j'ai besoin de 25 ans d'existence pour comprendre un truc que vous avez capté dès ma première chronique. Mais bon, qu'est-ce que je peux être naïf, quoi. Non plus que j'aime le métro et c'est bon, hein, je serais prêt à réaliser mon rêve.
Wow. Yeah.
Sur scène, Bruno Picchi, lundi 16 juin au festival Morges Sourire, c'est en Suisse, du 18 au 21 juin à l'espace Gerson à Lyon et le 25 juin en point virgule à Paris.
Et Daniel Morin sur scène aussi à l'espace Gerson à Lyon, ça sera en octobre. Et puis Daniel Ito au point virgule le 13 septembre.
Daniel Morin, et Thomas Gijol au cinéma avec Indomptable. Et Tanguy Pastureau, dans la prochaine demi-heure, tu vas parler de quoi?
Je vais parler de l'état de la pédopsychiatrie en France. Actuellement, on devrait mettre le paquet là-dessus, hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a des besoins. Ce qui se passe, c'est tout le contraire.
Tout à l'heure.
Lisa, la moitié, Julie, Conti, Bruno, Péki, Tanguy Bassureau, Aldela, Daniel Morin.
Coucou Bruno.
Et
coucou
notre invité, Thomas Njijol.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Non mais on va plier le game tout de suite. J'ai voulu par politesse dire Thomas Gijol pour ne pas poser problème.
C'est de ma faute.
Non.
Je pensais que ça se disait.
Parce que Kylian Mbappé aime bien aussi que le M soit mangé comme ça parce qu'il n'y a pas d'apostrophe. Mais c'est Thomas N. Gijol. Vous voulez que l'entende ce N là.
Vous pouvez le manger aussi. L'important c'est de l'entendre.
C'est
subtil. Gijol. Voilà. Ouais, Gijol, ça passe. Normalement, comme je le dis,
Pierre Inet.
Et le film, c'est Indomptable.
Indomptable.
Oui, c'était ça la vanne. Qui sort aujourd'hui, merci.
Mais non, c'est pas ça, c'est qu'on fait pas la blague au même endroit.
Je vous propose qu'on enchaîne.
Non, moi je l'ai fait. Mais non, moi je l'ai fait sur le M. Non.
Je pense que c'est pas mal.
Parce qu'on dit dompté, on dit pas dompté.
Je peux faire une petite précision parce que là je le dis à la française, mais au Cameroun on dit Ngidjol.
Il y en a qui
écoutent l'émission, ils se disent attends, mais il dit pas vraiment, donc voilà. Il y a plein de façons différentes, mais tant que c'est bien dit, il y a pas de souci.
En tout cas, il y a une façon que vous avez adoptée, celle de passer par le polar pour montrer d'abord dans quel état était un peu la société au Cameroun à Yaoundé, quels étaient les rapports humains qui pouvaient y avoir dans cette société, que ce soit entre policiers, médecins, les organisations, l'administration aussi, les rapports même au sein de la police entre votre propre inspecteur et vous êtes le boss, vous n'avez pas peur même de le menacer pour pas qu'il y ait de corruption, pour pas que l'argent soit détourné à des fins personnelles, mais plutôt pour aider l'enquête, voire sauver la vie d'un suspect. Et puis il y a cette transmission, ce côté père, mais qui fait écho à Pépère au podcast, c'est la question que vous posiez à vos invités aussi, quel était leur comportement de père justement par rapport à leur notoriété et à la transmission. C'est vraiment un sujet important pour vous.
Ouais, c'est des sujets qui me passionnent clairement parce que je me considère évidemment je suis père de fait, mais dans ma tête je suis encore en construction. Je sais pas si je suis.
Et puis vous êtes encore le fils.
Ouais, je suis encore le fils et je sais pas si je suis vraiment à la hauteur. Et c'est vrai que ces discussions là, moi je les trouve passionnantes entre nous, déjà dans le cadre purement amical, d'entendre les gens, comment ils se débrouillent, comment ça se passe avec leurs enfants et tout. Et je pense que ça correspond aussi à l'autre étape de la mienne, de ma vie, quoi.
Oui, puis il y a des phrases que vous dites dans le film qui font écho, je pense, à beaucoup de mamans ou beaucoup de papas sur le rapport que l'on a vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire être l'autorité, mettre un cadre et une rigueur, et essayer d'être pote un peu, essayer d'être, de servir un coca.
Ça, c'est vrai que ça marche jusqu'à un certain âge. Après, d'être pote, je sais pas trop, mais...
Il y a des phrases aussi où on dit « t'es pas mon pote », quoi.
Ouais, bien sûr, mais franchement, c'est les montagnes russes. Moi, j'ai ce rapport-là avec toutes mes filles, et puis il y a des fois où je retrouve mon père, des fois, j'ai des réactions...
Dans les phrases que vous dites
Ah oui,
vous entendez
surtout dans les silences, quand je suis très, très en colère ou très énervé, ils comprennent dans mes yeux que c'est fini, en fait.
Le silence, c'est de la peur de dire quelque chose qui pourrait blesser, ou c'est de transmettre dans le regard une déception?
Ça sera terrible. Ça, je ne l'ai jamais eu encore. Ça, je n'ai jamais eu la déception dans le regard. Mais je pense que, au-delà de tout, parce que je ne me mets pas en hauteur de tous ces mots qu'on peut avoir et ces difficultés qu'on a à communiquer et tout, mais ce qu'il y a d'agréable, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on a les... On a des réponses. On a on sait en fait, on sait situer les choses. Donc c'est un peu ce que fait ce film, c'est que je ne dis pas oh il faut faire comme ça ou comme ci, mais je pointe des comportements où certains peut-être se reconnaîtront ou connaîtront des choses qu'ils ont connues. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Rien que ça, c'est un avancement, on peut dire. Voilà.
Pour reprendre la comparaison faite par Leïla en début d'émission, il y a ce côté Clint Eastwood, mais c'est encore une fois... Non, mais c'est vrai. Et elle a raison dans la dégaine, dans l'élégance, même si les idées véhiculées ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, dans la forme, il a ce costume, et le jeu de la cravate est important aussi, la posture...
Économie de mots aussi.
Exactement. Et puis, nos limites pour les interrogatoires, quand il faut interroger...
Il faut du prunier.
Bah, s'il faut accrocher un suspect c'est par les pieds, on le fait.
Oui. Bon, c'est le côté cinématographique, ça. C'est qu'on est au cinéma, il faut donner un peu de rêve, il faut donner un peu... Il faut être un peu sulfureux par moment.
Et puis, il y a des abdos. Il y a un gars qui est
Ah oui, d'accord, parce que je me disais les miens. Mal renseigné.
Vous êtes en costume de
Ouais, moi, c'est bien.
Il y a un suspect qui a des abdos, mais de ouf.
Ouais. Et puis, le pire, c'est ce genre de mec, il travaille pas beaucoup, en fait. Oui.
Il est naturellement gaulé.
Ouais, il fait 2-3 tours de terrain et puis il a des abdos.
Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Voilà.
Et le foot est un clin d'œil aussi. Le foot féminin est présent dans le film. Les rapports à l'éducation. Quand même un portrait de la situation actuelle à Yaoundé, mais vous pouvez aussi le vivre comme une histoire humaine d'un rapport père-enfant, enfant-parent, et puis aussi dans le couple, le regard sur l'enquête, les rapports entre l'inspecteur et son boss, il l'appelle le boss tout le long, qui n'a pas peur de faire usage de son arme pour écarter des voisins un peu trop...
je veux pas spoiler, mais c'est vrai que oui, en plus sur l'affiche, j'ai un flingue, donc c'est vrai que quand l'affiche est sortie, j'en recevais plein de messages, waouh, tu fais John Wick en Afrique et tout. J'étais persuadé que j'allais canarder tout le camion, j'ai dit non, c'est pas tout à fait le film.
Mais c'est quand même vous qui avez décidé de le mettre sur l'affiche.
Ouais, mais je trouve que ça donne un côté nerveux. Mais c'est sûr que l'arme à feu, j'avais pas une envie folle de faire des scènes de canardage ou autre.
Vous vous en servez, on dira pas sur qui ni sur quoi, mais c'est dans le film et ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle Indomptable, on vous encourage à le voir. Voici Tanguy, Pastureau.
Bravo. Hier, j'étais sur Internet, je consultais le classement des célébrités les plus bronzées de France. Numéro 1, Christian Estrosi. Numéro 2, Jean-Pierre Foucault. Louis Garrel apparaît en avant-dernière position, juste devant Houellebecq, qui a déjà sa couleur de quand il sera décédé. Quand soudain, je me suis mis à recevoir, à cause des algorithmes, des tas de contenus liés à la mort. Ça me va, je suis macabre. Hein, j'aurais pu devenir gothique et me promener avec un collier de cuir clouté. Mais j'ai peur, si à cause de l'âge, je me mets à faire pipi dans pleine rue, d'être pris pour un teckel abandonné et finir à la SPA. J'ai notamment vu un post de Santé publique France sur les passages aux urgences suite à des tentatives de suicide. Alors, c'est divisé en catégories d'âge. Il y a les 25-64 ans, les plus de 65, les 18-24, on apprend qu'il y a surtout des filles, mais il y a aussi les 11-14 ans et même les 0 à 10 ans. J'imagine que ça commence plutôt à 8 ou 9 ans. J'ai rarement entendu parler d'un nourrisson de 4 jours qui se jette de son berceau en criant « on n'a pas passé le week-end que je suis déjà déçu par la vie ». Ou alors c'est un bébé marseillais à qui on a raconté l'épopée récente du Paris Saint-Germain. Mais ça m'a marqué parce qu'on n'imagine pas que des enfants se suicident. Dans l'imaginaire collectif, les enfants, ce sont juste ces êtres étranges qui portent des t-shirts Minecraft et font du bruit en continuant à tirer sur la paille du Capri Sun quand il est vide. Quand on voit un enfant, on refuse de penser qu'il puisse être en détresse. On se dit, ça doit fonctionner comme les Schtroumpfs. Même les jours où Gargamel a écrasé par mégarde la moitié des maisons champignons, le soir ils font la fête. La vie des Schtroumpfs est pourrie. Déjà, ils sont bleus, ça va avec rien. Ensuite, il y a une femme pour 100 hommes. Tinder chez eux, c'est l'appli la moins sympa de tout l'iPhone. Et puis, ils vivent en pleine nature comme des zadistes. On dirait tellement une émission de Frédéric Lopez que je suis toujours surpris de pas avoir débarqué dans le village, Michel Fugain en veste à carreaux, quoi. Et ben malgré ça, ils sourient les Schtroumpfs, ils avancent, ce sont des battants. Et ben les enfants, on les voit un peu comme ça, juste parce qu'ils aiment Pikachu, on se dit ils sont heureux, alors que pas forcément, pas tous. Et les collégiens, encore moins. J'ai moi-même été collégien il y a longtemps, à l'époque de Louis le Pieux. Alors certes, j'ai eu des joies. Un jour, une fille m'a fait un clin d'œil. J'ai appris plus tard que c'était une allergique au pollen. Une pionnière, si ça se trouve, elle était aussi intolérante au gluten. Mais c'est une période difficile, le collège. On se cherche un groupe, une meute. Parfois, on en trouve pas. Je sais que ça paraît difficile à croire maintenant que je suis une idole, le petit fiancé de la France, mais parfois à la cantine, je me retrouvais seul face à mes œufs mimosa. C'est de là que me vient cette passion pour la mayonnaise. J'avais une santé mentale en friche, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, et puis on avait des parents, des proches à l'écoute, parce que tout le monde n'avait pas le nez tout le temps dans ces saletés de smartphone qui nous ont connectés à du vide et nous ont déconnectés les uns des autres. Ok, parfois ils regardaient Patrick Sabatier à la télé, les parents, mais c'était pas 24 heures sur 24. Sabatier, on l'avait pas dans la poche. Ou alors c'est qu'on le connaissait très très bien et qu'en activité
était annexe, il faisait porte-clés, mais ça aurait froissé ses cheveux. Non. Tout ça, c'est juste un ressenti. Hein. Et récemment, Lila Kadour en a parlé, elle-même doit se dire, mais de quoi? Je dis tellement de choses intéressantes. Eh bien, d'Elisabeth Borne. Ah. Vous vous souvenez, cette dame, elle-même borderline, qui a gouverné par 49-3 et a rongé avec ses dents de devant 700 vapoteuses.
Oh, wow.
Et désormais, ministre de l'Éducation nationale. Et je vais pas revenir sur tout ce qui se déroule dans les collèges, mais disons qu'il se passe pas deux semaines sans que parte un coup de couteau. Je sais pas si c'est TikTok, si c'est l'après-Covid, je sais rien. Il y a des spécialistes qui étudient ces questions-là. Moi, mon job, c'est de n'avoir à approfondir aucun sujet en particulier. Oui, c'est un job de rêve. Et donc, Borne, parmi les idées avancées, a eu celle de diffuser dès la classe de quatrième la série Adolescence de Netflix. Ok. Ok, pourquoi pas. Moi, au collège, on m'avait montré le film Une saison blanche et sèche sur l'apartheid en Afrique du Sud. Ça m'a guéri à vie du racisme. Et en sciences nettes, on nous avait montré un film sur la reproduction. Ça m'a guéri pendant des années du sexe. Rien que de penser qu'on avait des espèces de têtards qui sortaient de nous, ça me dégoûtait. J'avais l'impression d'être un étang. Je criais aux autres, il était interdit de me plonger dedans. Les images ont une force. Et en même temps, je me dis que montrer une série, c'est tellement dérisoire par rapport à l'étendue du chantier. Puis quoi, si on apprend qu'il y a une vie extraterrestre, on va diffuser Alf aux gens. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit à Fontainebleau. Parce que la forêt, c'est l'état de la pédopsychiatrie dans ce pays. Un jeune qui plante un membre du personnel de son établissement ou un autre jeune a besoin de cadre, d'autorité, mais aussi d'un professionnel de la santé mentale. Parce que personne d'équilibré ne poursuit qui que ce soit avec un couteau. C'est statistique. Si vous êtes bien, vous profitez du printemps, vous lisez dans un parc, vous faites de l'amour avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille. C'est ça, être équilibré,
oui,
quoi.
Hein,
ok, les portiques à l'entrée des collèges. Ok, la série Netflix. Mais moi, ça fait des années que je lis des articles parlant de l'état délabrement de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie en France. Exemple à Nantes. À Nantes, un décès et trois blessés dans une attaque au couteau en lycée récemment. Et les professionnels parlent d'état déplorable de la pédopsie sur place. Pas état moyen ou bof-bof. État déplorable. On parle là-bas d'ados hospitalisés dans des chambres d'isolement en psychiatrie adulte, faute de place en pédopsychiatrie. Spoiler, ce sont pas les mêmes gens en fait. Si à 30 ans tu aimes manger de la semoule, on te met pas en EHPAD. Un pédopsychiatre dit au quotidien Le Télégramme, à des parents en pleurs, on répond d'attendre des mois. À Lens, le service de pédopsychiatrie n'a plus de médecins et dans les campagnes, n'en parlons pas, ils ont même retiré les boîtes aux lettres. L'État n'est plus là, donc la santé mentale. Vous avez compris que la série Netflix, elle est là juste parce que derrière, il n'y a plus rien qui roule. Un pays qui néglige ses enfants à ce point est un pays en perdition. Je vous avais dit que j'étais macabre.
Merci, Tanguy Bosturo.
Tanguy Bosturo.
Ça reste une très bonne série.
Ça n'empêche pas. Oui, en spectacle le 27 novembre prochain, et où ça?
À Poitiers.
Absolument.
Ouais, oui.
Oh, ils font à deux voix maintenant.
Ouais, à deux voix.
Trop fort.
Quand c'est Poitiers, oui.
Indomptable, c'est Thomas Ndijol qui est notre invité jusqu'à midi et demi avec ce film qui a été difficile à monter, à produire, à réaliser, ou au contraire, ça a été que du bonheur?
À produire, non, c'était pas simple, mais j'ai travaillé avec un producteur qui connaissait le sujet, qui avait déjà fait une adaptation en plus de Doc, Pascal Cousteau, avec qui j'ai déjà bossé, qui avait fait le film de Desplechin, Roubaix une lumière, qui est aussi une adaptation de Doc, donc je partais quand même sur de bonnes bases, et qui connaît le film d'auteur, donc j'étais bien accompagné. Et puis,
parce que vous voulez que ce polar raconte quelque chose, qu'il dise quelque chose, que ça soit pas juste une enquête, quoi.
Bah, si on voit que le Doc, on se dit où tu veux aller, quoi. Tu vois,
Meurtre à Yaoundé, quoi.
Voilà, ça aurait été peut-être, bon, ça aurait été un autre film, peut-être que ça aurait été bien, mais différent, en tout cas. Mais j'étais bien accompagné à ce niveau. Et puis après, oui, à réaliser, tout était dur parce que j'avais cette double casquette. J'étais dans un autre territoire. J'étais au Cameroun avec d'autres codes et tout. Mais il y avait quand même ce supplément d'âme. Mmh. Ça, c'est sûr que c'était dur. Mais le supplément d'âme sur place...
Il y est, et ça passe, et ça marche.
Il voulait vraiment que ça fonctionne. Il voulait le meilleur pour moi et le film, donc c'était super.
Le film sort aujourd'hui. D'autres événements culturels, Leïla.
D'après vous, quel est le point commun entre le Louvre, Chambord, Versailles, l'Arc de Triomphe, par exemple?
Des rénovations, des travaux?
Il en sera question de ce point commun à partir du 1er janvier 2026. Ce ne sont pas des travaux,
interdit
même si
aux enfants.
Ils en ont besoin parfois.
Interdit aux enfants.
La gratuité, au contraire, pour certaines populations.
Non. C'est pas la gratuité, non. C'est le contraire.
C'est payant. Tout est payant.
Augmentation des tarifs.
L'interdiction.
Doublement.
Augmentation, oui, mais pour qui?
Ah, pour les gens qui ne sont pas européens.
Absolument.
Ah, quoi?
Wow.
À partir du 1er janvier 2026, si vous allez au Louvre, par exemple, vous paierez plus cher si vous êtes un visiteur non européen. C'est-à-dire que vous êtes britannique, vous êtes nord-américain, vous êtes chinois, japonais. Vous paierez plus cher que si vous êtes ressortissant de l'Union européenne.
Pays, c'est ça,
alors, c'est une pratique qui existe déjà dans beaucoup de pays.
Il y a la même chose dans beaucoup de pays.
Bien sûr.
Et du coup, les Suisses aussi, non?
L'idée.
Ouais.
Ça, moi, j'ai trois passeports.
Ah, ben voilà, tu sors. Alors, justement. L'idée, c'est c'est de faire participer ces touristes que je viens de citer et tous ceux qui seront donc concernés par l'augmentation du tarif à l'entretien des sites qui en ont besoin. L'idée, c'est de ramener de l'argent, bien entendu.
Et un étranger coûte plus cher. Il s'allie plus en étranger. Ouais,
non, mais c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il va devoir apporter une contribution supplémentaire, supérieure à un Français, en tout cas de papier, etc., etc.
Peut-être que les Européens payent déjà des taxes pour la culture.
La question que ça soulève, et elle est intéressante, c'est qu'est-ce que tu fais des binationaux ? Donc tu choisis donc le passeport qui t'arrange. Et surtout, la journaliste Francine Guillou, dans Télérama, soulève un truc hyper intéressant. Si tu viens voir au Louvre le scribe accroupi, qui est quand même une œuvre qui est assez ou alors un sarcophage, n'importe quelle œuvre qui vient d'Égypte.
C'est gratuit pour l'Égypte.
Non, quand tu es un couple d'Égyptiens, tu vas te retrouver donc à payer plus cher pour voir quelque chose qui a été découvert dans ton pays par un archéologue français certes ou qui a été prêté, envoyé, voilà. Bon, ça c'est non, pas au Louvre. On peut pas soupçonner le Louvre de ça, mais en tout cas des œuvres qui auraient été retrouvées dont on se serait d'une façon un petit peu comment patriarcale et coloniale considérer qu'elles nous appartenaient.
Ils vont mettre un péage sur la place de la Concorde pour voir l'obélisque.
Je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà ce que ça soulève comme question de la restitution des œuvres d'art, la façon dont on imagine qu'on peut conserver sur son territoire une œuvre qui n'appartient pas vraiment à notre territoire, et donc créer une sorte de discrimination d'une certaine façon par rapport aux populations, et même si en effet, comme l'a dit Tanguy, c'est une pratique qui existe déjà à l'étranger, qui existe aussi d'une certaine façon en France. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, Thomas, qui vous fait du bien, que vous aimez voir, qui vous touche par sa beauté, qui vous réenchante?
Moi, c'est la musique. Je suis musée moyennement, mais moi, c'est la musique.
Une œuvre musicale.
J'aime bien, par exemple, Bocelli. Je pourrais même pas vous dire laquelle, mais c'est une reprise d'une chanson qui me fout des frissons. Mais je l'écoute très rarement. J'écoute de temps en temps.
Pour pleurer ?
Non, j'écoute pas pour pleurer. Complètement maso.
Non. On a des chansons pour pleurer.
Non, c'est une chanson qui m'amène. J'ai une culture un peu, je sais pas, de la motivation un peu sportive. Donc il y a des fois des musiques qui me mettent dans des états avant de monter sur scène, notamment où j'ai besoin de ça, quoi. Mais je suis très culture musicale.
Quand vous étiez footeux, pardon, vous écoutiez de la musique justement dans les vestiaires avant de rentrer sur le terrain, parce que vous avez beaucoup joué au foot.
Ouais, j'ai beaucoup joué. Non, mais moi je jouais à un niveau amateur.
Vous pouvez avoir des écouteurs quand même.
Ouais, mais on était non. Oui, c'est vrai qu'on se prenait très au sérieux, mais on jouait très mal.
Puis ça fait partie du look maintenant d'avoir
les. Mais chez les pros, nous on nous filmait pas. Nous on nous filmait pas. On venait avec des sacs en plastique minable, mais en fait, non, mais c'est génial. Moi j'ai joué en amateur. C'était des années de bonheur. C'était jusqu'à maintenant, je vais vous dire, je suis en rééducation parce que j'ai un petit problème ligamentaire, rien de méchant, mais je fais tout pour revenir dans le foot.
Étiez à Munich ?
J'étais à Munich, ouais. Ça, c'était l'apothéose. En fait, c'est...
Pour la
c'est
finale.
En fait, au-delà de l'apothéose, c'était la guérison de toutes ces années de souffrance. C'était en fait comme si on nous mettait un pansement, on dit c'est bon, vous faites partie du club. Des winners maintenant. Donc, pour quelqu'un comme moi qui suit le PSG depuis tout petit, qui a été en 96 envahir le Parc des Princes quand on a gagné la Coupe de la Coupe des Coupes, quoi, la première Coupe d'Europe.
Face au Rapide de Vienne.
Ouais. Exactement, et qui a vécu des années avec les skinheads, qui s'est fait poursuivre par les skinheads à un âge. Ah, bah oui, quand on était petit, c'était pratique fréquente. Fallait sortir à la 80e, sinon tu tombais face à la tribune Boulogne et puis c'était parti. Wow. Mais j'étais jeune, donc
je courais vite.
Ouais.
Fait les croisés, quoi.
Une sorte de kirikou de alentours du Parc des Princes. Tac, 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 tac. Non, mais c'était la folie, quoi, cette époque. Donc, c'est vrai que maintenant, voir ce club arriver là, bah, c'est émouvant. Mmh. C'est émouvant, c'est beau. Je suis guéri.
Question, Leïla.
Oui, 15 ans d'absence et un retour sur scène, et en parallèle, une collab avec Amazon. De qui est-ce que je parle ?
Sting.
C'est un groupe.
Ah merde, non.
C'est pas Sting, mais Sting revient. Ouais. Enfin,
j'ai croisé dans l'ascenseur, c'est pour ça.
C'est un groupe qui ne s'est pas produit depuis plus de 15 ans et qui un groupe connu pour sa mésentente.
Oasis
revient, 40 concerts annoncés, avec toutes ces histoires, vous savez, de tarification dynamique qui ont fait que les prix ont explosé, les arnaques, les tentatives dans tous les sens. Eh bien, ils annoncent encore aussi, pour faire parler d'eux sans doute, une collection capsule avec Amazon. L'idée, c'est de sortir tous les 6 mois des vêtements qui retracent les moments les plus forts du groupe. Alors que ce soit des t-shirts, des suites, avec par exemple couvertures d'albums qui rappellent par exemple le concert de Wembley en 97 pour les grands fans en fait. Donc tous les 6 mois ils vont sortir quelque chose. Alors,
et Liam a lui-même une marque de prêt-à-porter depuis 20 ans, voilà, hein, qui s'appelle Pretty Green et qui est bien.
Et voilà, donc il continue justement dans ce sillage-là du vêtement pour continuer à vendre des choses. Est-ce qu'il y a un groupe qui vous a déçu avec le temps?
Un groupe qui m'a déçu
avec les Doobie Free.
Non. Déçu avec le temps. Non. C'est un artiste que j'aime beaucoup et en plus je l'ai croisé dans la vie. C'était Doc Gineco, oui. qui a fait partie de mon enfance. Et c'est vrai que le virage politique, j'étais perturbé. Mais après, c'est pas grave. Sa musique, elle reste et son album, il est iconique. Voilà.
Comme Faudel.
Voilà, comme Faudel.
Thomas Gijol avec Indomptable, c'est aujourd'hui au cinéma et on vous l'a dit. On a aimé ce film. On vous encourage à le voir. Parmi tous les projets, il y a Paname Flash 80, film réalisé par Jean-Baptiste Sorel.
Ouais.
Avec François Damien, c'est Laure Calamy, ça sent la comédie.
Avec, c'est pas Laure Calamy, c'est Audrey Lamy.
Ah, pardon.
C'est pas grave, tout va bien.
Moi j'avais Laure Calamy, mais
Et le film s'appelle maintenant Police Flash 80, mais ça sera pour l'année prochaine.
Ok.
Ouais. Okay, j'ai tout faux, j'aurais
mieux
fait de
me taire. Non, mais c'est pas grave, Nagui.
Ça s'appelle toujours Indomptable, celui qui sort aujourd'hui.
Celui qui sort, est toujours Indomptable.
Et c'est signé Thomas Gijol et c'est réussi. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, déjà, désolé pour notre invité, Thomas Gijol, qui a eu l'impression de vivre dans un tunnel de gênance pendant la dégression pourtant très audacieuse d'Oldolaf.
Non.
Merci Thomas, merci de vous être exprimé. Imaginez, nous on vit ça tous les jours et croyez-moi, on chiale. Désolé pour tous nos auditeurs SM qui se sont sentis tout excités en imaginant Tanguy, le petit fiancé de la France, en collier de cuir clouté. Alors oui, c'est assez hot comme image et sachez que quand il est en collier de cuir clouté, il ne porte rien d'autre. Petit coquin, va.
C'est gênant.
Désolé pour Thomas Gijol que Nagui a appelé toute l'émission Thomas Gigol. C'est pas grave, faut bosser pour les prochains invités.
Il m'a appelé Najoui.
Alors demain, ce sera Caroline Anglade, là ça devrait aller, mais pour Redouane, c'est Bougueraban.
C'est noté.
Ok, très bien, ce sera quand même le pire.
Merci Thomas Gijol et encore bravo.
Merci pour l'invitation.
Réussite pour cette Indomptable. Et c'est Dorothée Barba qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Dorothée, où êtes-vous aujourd'hui?
Bonjour Nagui, nous sommes toujours au Théâtre du Peuple à Bussan, dans les Vosges, sur cette scène un peu magique, car elle est ouverte sur l'extérieur. La forêt est un décor au fond de la scène. Le public est là. Oui. Mes invités aussi. À tout de suite.
Bonne émission, Dorothée. Merci.